Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour, bienvenue. L'actualité économique du jour, on va parler des retraites. La Cour des comptes a confirmé, ou en tout cas a insisté sur le fait que c'était le seul vrai gisement d'économie et qu'il fallait engager cette réforme. Olivier Dussopt, hier, a annoncé que le projet serait présenté mi-décembre, ce qui éventuellement laisse une petite place en cas de difficulté pour glisser un amendement dans la loi de financement de la sécurité sociale avant la Saint-Sylvestre. Et puis, on évoquera aussi cette réforme au travers de plusieurs articles publiés ces derniers jours. Notamment, Christian Saint-Etienne est avec nous et il signe deux colonnes, deux très simples colonnes dans les Échos d'il y a 48 heures qui, objectivement, m'ont fasciné. La réforme de l'assurance chômage, elle devrait passer sans trop de difficultés parce que la loi actuellement prévoit juste de prolonger l'actuelle convention. Les éléments de réforme ne sont pas dans le texte. Et on ouvrira à cette occasion le baromètre Odoxa Abeille Assurance Challenge BFM Business qui justement a interrogé les Français sur cette réforme, pour ou contre. Et puis vous verrez qu'il y a des questions assez dérangeantes. Le plan sobriété a été présenté. Alors moi j'avais une façon de le lire. On verra comment mes invités veulent l'exploiter. En tout cas, je le sens inflationniste. Ce plan est plutôt porteur d'éléments de récession. Enfin, Bercy va redistribuer aux entreprises françaises, TPE, PME, 7 milliards d'euros qui vont venir des super profits versés par les énergéticiens. Je dis versés car ça n'est pas une arme fiscale qui va permettre de lever cet argent. Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole, aux éditions Les liens qui libèrent. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du cercle des économistes. Vous avez publié Le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob. J'évoquais votre article. Il va être difficile à résumer dans le détail devant un micro. Il vaut mieux aller le lire d'ailleurs. Il est en page 12 des Échos de mardi. Mais enfin, voilà, j'ai été impressionné par cet article, j'ai considéré qu'en deux colonnes, on avait un mode d'emploi de réforme des retraites avec des éléments de réflexion particulièrement inédits. Et puis Philippe Aguillon aujourd'hui, qui considère qu'il ne faut pas mettre la borne d'âge à 65 ans, ce serait profondément injuste, explique un autre membre du Cercle des économistes, partenaire, vous le savez, de cette émission. Gaël Slimane, bonjour.
Bonjour.
Président d'Odoxa, avec le baromètre Odoxa Abeille Assurance, Challenge BFM Business. Et cette question, vous verrez, pourquoi est-ce qu'il y a des postes qui ne trouvent pas de candidats ? Alors là, promets un débat. La réforme des retraites. Christian Saint-Etienne, vous écrivez cet article il y a deux jours en donnant des éléments clés de réforme, en considérant qu'il y a deux erreurs vis-à-vis desquelles il faut s'extraire. L'idée de vouloir un régime unique, non. Pas de régime unique, ça n'est pas possible. Et puis, faire croire qu'on va faire une espèce de réforme systémique, alors qu'évidemment, c'est avec les paramètres qu'on y parviendra. Là, je viens de donner deux éléments, mais deux éléments qui ne permettent pas de prendre l'ampleur de la réflexion que vous avez voulu poser dans ce papier. Est-ce qu'on arrive à donner le sens de ce que vous écrivez sans donner tous les détails ? Parce qu'effectivement, c'est complexe, mais c'est normal que ce soit complexe.
Alors, pour répondre à votre demande particulière...
Impossible, j'admets.
Ultra simple sur un sujet ultra complexe, je ferai deux réflexions en amont. La première, c'est que la question des retraites, ce n'est pas une borne à un moment donné. Il faut la replacer dans le cycle de vie. Donc, comprendre que la retraite, c'est le moment où on passe du travail à d'autres activités, pour ne pas dire l'inactivité. Et donc, c'est important de préparer l'avant et l'après. Et le deuxième élément, c'est que effectivement, c'est un vice de pensée de vouloir faire un seul régime. Pourquoi ? Je me souviens, parce que c'est un sujet que je regarde depuis longtemps, et je me souviens en 2019, quand il y a eu la proposition de réforme du régime unique, alors vous aviez des députés de la majorité d'alors qui faisaient des grands discours, ils avaient certainement reçu, je sais, des feuilles avant, on leur disait il faut dire ça, ils ne connaissaient pas le sujet, ils répétaient. Bon. Il vous disait, par exemple, il y a un seul régime en Suède. Très bien. Sauf qu'il y a un seul régime en Suède sur 40 000 euros, jusqu'à 40 000 euros. Et au-dessus, il y a 800 régimes. Voilà. Donc, le régime unique n'existe pas. Et ce que je dis dans le papier, c'est qu'en fait, il y a 5 façons de se relier au marché du travail. Et pourquoi on veut faire un système unique s'il y a 5 façons de se relier au marché du travail? Il y a d'abord le salarié du privé. Quand vous entrez dans une entreprise, normalement, si vous comprenez ce que vous faites, vous savez que vous êtes dans l'économie marchande et qu'il y a un certain nombre de règles de fonctionnement. Vous choisissez le secteur public. Vous ne serez pas forcément très bien payé, mais il y a un deal qui est qu'à la retraite, vous aurez un niveau de revenu qui sera satisfaisant. Alors on peut se dire, mais on s'en fout. Sauf que qui veut être flic dans la Seine-Saint-Denis à 1400 balles par mois? Donc c'est une réflexion sur le cycle de vie qu'il faut avoir. Troisième façon de se relier au marché du travail, et c'est là où on a des dirigeants qui ont perdu tout bon sens, mais même toute capacité d'analyse, même ne serait-ce que des mots, puisqu'il y a un régime en France qui s'appelle celui des indépendants. Mmh. Pourquoi est-ce que l'État, dirigé par des énarques, tous fonctionnaires, devrait gérer le régime des indépendants? On les laisse faire. Ensuite, il y a deux régimes particuliers. C'est les régimes spéciaux dits du public, comme SNCF, EDF, RATP.
SNCF, c'est en train, ça va s'éteindre, SNCF.
Oui, oui, mais néanmoins, il y a des avantages particuliers dans la convention de spécifique à l'énergie. Mm-hmm. Mais ce sont des métiers à suggestion particulière. Bon, il y a des trains qui démarrent à 4h du matin, 5h du matin, les métros qui démarrent à 5h30. Voilà, donc ce sont des métiers à suggestion. Quand il y a une tempête, on trouve normal qu'il y ait 80 personnes de qui viennent d'un seul coup réparer au milieu de la tempête pour qu'on ait de l'électricité.
Donc, métier spécifique, régime spécifique, j'ai bien compris.
Et cinquième domaine, qui est le plus intéressant presque par son côté paradoxal, c'est que l'État impécunieux, à déficit récurrent, veut s'occuper de ce qu'on peut appeler les régimes spéciaux du privé, c'est-à-dire avocats, pharmaciens, médecins, ce que vous voulez, qui sont tous des systèmes privés excédentaires.
Absolument.
Et en réalité, ce que veut faire l'État, c'est piquer les excédents.
C'est bien ce qu'il redoute.
Voilà. Donc, je dis, il y a 5 façons de mener sa vie professionnelle. Gardons 5 régimes. À partir de là, il y a également une réflexion, c'est... est-ce qu'on peut retenir de la Suède ou d'autres pays des éléments? Et effectivement, je pense qu'il faut avoir un cap, une limite supérieure, un plafond. Et on peut dire, on a les 5 régimes jusqu'à 120 000 euros par an de revenus.
3 plafonds de sécu et voilà. Après, liberté de s'assurer dans le privé.
Et liberté, on s'organise comme on veut. Et dans ce contexte-là, je dis, il faut passer pour, pas seulement rééquilibrer les régimes de retraite, et puis je ne développe pas le reste, mais également parce qu'on a un déficit de main d'œuvre, on le parlera tout à l'heure. Il faut allonger la durée, le temps passé au travail, parce que on a besoin de compétences. Et ce que je propose au passage, c'est qu'évidemment ces compétences, il faut tenir compte du fait qu'après 62 ans, les gens ont moins d'énergie. Et je le développe pas maintenant, mais je propose d'utiliser un régime qui s'appelle le 80-90-100, où après 62 ans dans les entreprises, on travaille 4 jours par semaine, on est payé 90% de son salaire, mais on vient le cinquième jour pour faire de la formation professionnelle.
On n'a pas pu tout détailler, mais vous avez quand même donné beaucoup, beaucoup d'éléments et vous insistez sur le fait que les paramètres devront aussi prendre en compte la nécessité d'inciter à la natalité et de tenir compte, bien sûr, de la pénibilité. Je ne sais pas si, Benjamin Cordia, vous avez tout intégré de ce qu'a dit Christian, c'est assez dense. Je me dis, en l'écoutant, mais oui, il y a quand même moyen de trouver des solutions intelligentes, raisonnables, économiquement sensé, sans brandir ce qui forcément, et je ne sais pas ce que dit l'opinion, mais j'imagine bien qu'elle n'est pas favorable à cette réforme. On peut y arriver, Benjamin, avec un peu de raisonnement économique, avec un peu d'expertise, à trouver des systèmes futés.
En tout cas, moi, je le souhaite vivement. qu'on y arrive. Et bon, par exemple, dans ce qu'a dit Christian Saint-Étienne, moi, je retiens beaucoup d'éléments tout à fait importants. Tout à fait importants. Je veux dire, on aurait ce débat-là, je pense qu'on n'aurait pas le débat qu'on a maintenant. Bon, donc je ne suis pas nécessairement d'accord avec vous.
C'est à ça que vous servez, messieurs.
Hein. Mais surtout, je veux dire, mais en tout cas... tel que c'est posé dans ce que vous venez de dire et dans votre article, il y a des éléments clés de ce que pourrait être une réforme du système des retraites autrement pensée. Hein. Donc, moi, je suis pas de ceux, vous le savez, hein, je suis pas de ceux qui sont pour la défense tout craint des choses comme elles existent. Je veux dire, on n'est plus du tout au moment où on a fondé le système des retraites et il doit être pensé. Donc, les éléments parmi d'autres, mais en tout cas, ils sont clés. Ils sont clés. Hein. Moi, je suis prêt à engager une discussion sur ces points, complétés par d'autres. Ce qui me gêne très considérablement, c'est pas du tout ce que vous venez de dire. Ce qui me gêne très considérablement, c'est que la discussion sur les retraites en France, depuis juste quelques années, elle a connu au moins trois dérives fondamentales qui font qu'on est complètement dans une impasse. Bon, la première dérive, c'est que elle a été annoncée comme systémique. Alors, c'était pas ce que vous suggérez, c'était la réforme par points, mais l'idée, c'était une réforme systémique. Et puis, en fait, elle est devenue entièrement paramétrique.
Totalement paramétrique. Oui. Non, mais c'est totalement.
Il n'y a plus aucune discussion de fond. D'une certaine manière, si votre article a du succès, et je le souhaite,
Le souhaite aussi.
On reviendrait vers une discussion un peu systémique. Et c'est de ça qu'on a
besoin. Donc, les dérives, Philippe.
Oui, première dérive. Deuxième dérive, de paramétrique... Tout s'est focalisé sur 65 ans,
oui.
Ou 64 ans. Ce qui est le pire, alors là, je signe des deux mains la tribune...
De Philippe Aguillon.
De Philippe Aguillon.
Vous donnerez
l'élément
central.
C'est la forme la plus injuste possible. Mais la plus injuste possible. Ça n'a aucun sens de dire le type qui commence à travailler à 16 ans et le type qui commence à travailler à 30 ans, de toute façon, ils sont assujettis au même... C'est débile. Et c'est d'une injustice incroyable.
Vous avez parfaitement résumé ce que dit Philippe Aguillon.
Mais oui. Ça n'a aucun sens de faire un truc pareil. Bon. Et puis,
la troisième dérive qui vous venait à l'esprit.
Si... Oui, la.
Si vous la retrouvez pas.
Oui, je la retrouvais pas. Ah oui, la troisième dérive, c'est que c'est plus pour les retraites. C'est pour financer les dépenses sociales en général.
Mais je suis complètement d'accord avec vous.
C'est n'importe quoi. Je veux dire, l'État a effectué dans ses dépenses ou dans son équilibre, hein, ou dans son renoncement à certaines recettes, à des dérives. Et puis maintenant, il pique sur les assurés sociaux. C'est quoi ce truc ?
Non, mais je pense que dérives mériteraient un article qu'on pourrait accrocher
évidemment,
également.
Mais je me réserve de le faire.
Oui, faites-le.
On est quand même très loin du type de choses que vous proposez, et en tout cas sur le fait que une réforme systémique, oui, est envisageable, à condition de tenir compte de toute une série. Bon, c'est pas le cas.
Philippe Aguillon écrit aujourd'hui que les 65 ans reviennent tout simplement à transférer des revenus des moins favorisés vers les plus aisés.
Parce que
le gars qui a commencé à 26 ans, évidemment, 65 ou pas, lui, il continue après 65. Et puis juste la phrase de Philippe Trénard. Dans les échos d'hier, la France ne peut plus continuer à accumuler la durée annuelle du travail la plus réduite et la durée de vie active la plus réduite. Et c'est pour ça qu'il considère, lui, qu'il y a suffisamment de personnes en bonne santé pour repousser l'âge de départ à 65 ans. Il n'est pas vraiment sur la même ligne. Gaël Sliman, là, ce qu'on vient de dire en l'espace de 15 minutes sont des éléments, j'ai envie de dire, neufs dans la réflexion sur que faire avec la réforme des retraites. Et effectivement, on s'éloigne très très nettement des dérives justes que pointe Benjamin Coria. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la perception de l'opinion, par rapport à ce débat-là qui s'ouvre? La concertation a commencé hier, elle va durer pendant 2 mois.
Alors j'ai beaucoup beaucoup d'informations. Donc
un peu plus près le micro, Gaël.
J'ai beaucoup d'informations sur le sujet puisqu'on
a
monté. Je vais les sélectionner et puis surtout je vais vous renvoyer, comme vous l'avez fait pour l'article de Christian aux Échos. Moi je vais vous renvoyer au baromètre que nous réalisons pour Groupama chaque année sur le rapport des Français à la retraite. On interroge plusieurs milliers de personnes, 3000 Français, pour regarder ce que nous disent chacun par tranche d'âge, par CSP, catégorie socio-professionnelle. Et on compare ça à ce que nous disent nos voisins européens, des grands pays européens comparables aux nôtres. Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne. Pour rebondir sur ce que vous dites, d'abord, la vague de l'année dernière de notre enquête nous avait planté le décor et nous montrait, pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête des Français, que notre rapport à la retraite, c'est l'idée d'un âge d'or. C'est-à-dire que pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête de l'immense majorité des Français,
c'est le bonheur, quoi.
C'est le bonheur. On interroge des gamins de 20 ans, de 25 ans, qui nous disent, texto, le meilleur moment de ma vie, ce sera au moment de ma retraite. Donc, me dites pas qu'il faudrait que j'attende d'avoir. Alors, ça peut être triste de se dire qu'à 25 ans.
C'est très français, ça.
On se dit.
Non, alors, c'est pas très français. Alors, juste un mot. Les Espagnols, ils disent jubilación.
Jubilación.
Oui. Ils disent embarazada aussi.
Alors, moi, je suis trop vieux parce que j'ai jamais rêvé de la retraite quand j'avais 20 balais. Hein.
Alors,
parce que j'ai trouvé que les 20-40, c'était bon.
Alors, on a plutôt tendance.
Et en bossant.
On a plutôt tendance à se dire que, a priori, quel que soit son âge, c'est plutôt quand on est jeune, quand on a 25-30 ans. Que la vie est formidable.
Mais là, maintenant, j'ai
le rapport
gris,
à la retraite, pour une autre métaphore, si vous voulez que je file une autre métaphore, il y a cette idée qu'on est un petit peu comme des gamins à l'école, à suivre des cours qui nous embêtent, et à se dire, vivement la fin juin, le début juillet, parce qu'on va avoir 2 mois de vacances. Donc on a ce rapport-là. Ce qui fait que, dans l'idée de la retraite, on a le sentiment qu'on veut en profiter le plus longtemps possible, et que pour rebondir sur ce que vous disiez il y a un instant, il n'y a pas pire injustice que de repousser l'âge légal de départ. Donc toutes les réformes des retraites, toutes, ont toujours eu une majorité de Français contre elles à partir du moment où on jouait sur ce paramètre-là. En revanche,
sur ce seul paramètre.
En revanche, l'idée qu'il faille travailler différemment, changer les choses et peut-être cotiser plus longtemps, c'est une idée qui fait son chemin dans l'opinion et qui fait pas plaisir aux gens, mais qui est plus acceptée. Donc si on disait, les amis, il faudra bosser, cotiser 6 mois de plus ou 1 an de plus pour l'équilibre du système, ça ferait pas plaisir, mais ça passe beaucoup mieux. Or, il y a une incompréhension totale. On a eu des débats ici très souvent sur pourquoi serait-il plus efficace de jouer sur l'âge de départ que sur la durée de cotisation. On ne va pas le refaire ici.
Ça, les économistes vous expliquent non, mais très clairement.
Il vous explique qu'il y a mille raisons. Mais en tout cas, ce que je veux dire, moi, parce que c'est mon domaine, c'est que l'opinion publique, elle ne le comprend pas. Elle ne le souhaite pas. Elle ne l'accepte pas. Je reprends ce que vous disiez il y a un instant. Il y a des gens qui sont aisés, qui appartiennent à des milieux en général plus favorisés, qui commencent à travailler à 27-28 ans, après avoir fait des études agréables et après avoir été, par exemple, passé un an ou deux.
Pendant les études.
Non, mais.
Oui, non, okay. Non,
mais c'est pas la même chose. C'est... Et je vais même pas prendre l'exemple.
Moi, je bosse, mais j'ai pas l'impression quand même de me tuer le corps à la tâche.
C'est pas pareil que le maçon qui.
Non, mais je vais même pas prendre l'exemple que vous donniez de 16 ans ou 17 ans. Parce que le gouvernement vous dirait, il y a la pénibilité, il y a des exclusions, il y a des exceptions. Mais prenons quelqu'un qui commence à 20 ans ou à 19 ans. L'écart, il est quand même de 7-8 ans dans l'exemple que je donnais. Et donc, ça n'est pas accepté. Deux derniers points intéressants quand même. Ça fait des années qu'on suit ce que nous disent les Français sur l'âge souhaité, pas l'âge idéal, l'âge souhaité de départ à la retraite, et c'est pas l'âge idéal, c'est différent, et l'âge pronostiqué. Et il y avait un hiatus énorme, ce qui montrait les frustrations de nos concitoyens. Ils nous disaient, je pronostique de partir à 65. Depuis des années, ils disent, je partirai à 65 ans, et je souhaite partir à 60. Ça fait un écart énorme. Là, on a une convergence pour la première fois à 62 ans. C'est-à-dire qu'en pronostic et en souhait, on se rapproche. Ça veut dire vraisemblablement qu'on est moins dans des délires ou des inquiétudes ou des cauchemars, si on se place du point de vue de l'opinion publique, et davantage dans des choses rationnelles. Dernier élément, il faut une réforme, nous disent les Français. Donc ça veut dire qu'ils sont contre une réforme. Ils exigent même une réforme parce que à la retraite, il y a un sujet qu'aborde le gouvernement dans sa réforme et qui est un sujet incontournable, qui est la question des femmes. Quand on a regardé dans l'enquête où en étaient les femmes et la retraite, on a des inégalités par rapport à la retraite qui s'expliquent par des carrières plus hachées, par des interruptions, par tout un tas de raisons, qui sont absolument monstrueuses, avec en gros 30%, voire plus, de différentiel de pension. Ça peut monter à 40%.
Et enfin, ça s'est réduit.
Oui, parce qu'il y a un effet
national,
de stock. Il y a un effet
de stock. Mais...
il y a un deuxième paramètre, Christian, qui est que vous avez en plus des femmes qui doivent travailler plus longtemps parce qu'elles ont eu des carrières plus hachées. Donc vous avez ce double élément qui fait que les Français nous disent il faut la réformer parce que, dernier point, ils sont persuadés que notre système de retraite ne tiendra pas. Et que eux, ils ne toucheront pas une pension correcte tant qu'ils seront à la retraite. Donc, je vous invite à vous reporter à ce baromètre sur notre site internet.
Bon, on marque une pause. On comprend, en tout cas, à l'audition de ces quelques minutes de débat sur la réforme des retraites, qu'on ne peut pas le traiter simplement. c'est un sujet complexe qui doit être traité de manière complexe, que l'accrocher effectivement à une seule et même borne d'âge comme unique référentiel d'observation de ce que pourrait être la réforme est probablement aliénant, et c'est même d'ailleurs une erreur politique. Là, vous voulez réagir, Christian, dans un instant, je vous donnerai la parole. Et puis, on va ouvrir le chapitre de l'assurance chômage pour regarder ce que nous dit le baromètre Odoxa Abeille Assurance Challenge BFM Business ce mois-ci. Bon, est-ce que vous êtes pour ou contre, bien sûr, mais pourquoi il y a des postes qui ne trouvent pas preneurs? Pourquoi il y a tant de postes vacants? Alors là, la réponse est assez dérangeante. Après, si réforme il y a, bon, il y aura réforme, quels sont selon vous les paramètres qu'il faudrait bouger en fonction de la conjoncture, vous savez, de la météo, de l'emploi? La question a été posée, vous aurez la réponse dans un instant.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Benjamin Coria, il est professeur de sciences économiques à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés et auteur du Bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les Liens qui libèrent. Christian Saint-Etienne, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi, qui a publié Le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob. Et Gaël Sliman, le président de Doxa, avec deux derniers chiffres sur la perception des réformes de retraite par les Français. Juste ce tweet de Bull Market qui m'a bien fait rire. La retraite est la meilleure période de la vie, dommage que ça se termine mal.
Je trouve ça excellent. Elle est très bonne. Deux fois 67.
Deux fois 67.
67% des Français, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans notre baromètre sur les retraites pour Groupama, 67% des Français nous disent qu'ils sont opposés à une réforme avec un report de l'âge
légal. Pas surpris.
67% nous disent: si vous le faites, nous nous mobiliserons contre. Et parmi ces 67, 19% disent on ira même manifester, se mettre en grève, ça ira loin. Et alors les trois quarts des Français ne veulent pas entendre parler ni d'un passage en douce, en quelque sorte, par un amendement au PLFSS. Et les trois quarts nous disent aussi que si ça passe par un 49-3, ils jugeront cela inacceptable.
Oui, c'est chaud. Christian Saint-Etienne, vous vouliez rajouter un élément, alors je sors.
Alors c'est un élément qui.
Versus retraite par points, et je ne sais plus ce que vous vouliez dire.
Oui, c'est. Dans la façon dont on aborde la réforme des retraites, si vous vous souvenez, en 2019, et j'étais un des rares à m'être massivement mobilisé contre la réforme de 2019, parce qu'elle se voulait être en point. Et c'était, je pense, dans la façon de voir à l'époque de Macron, qui n'avait pas encore 40 ans, qui devait se dire « Moi, j'arrive et je vais régler avec un seul régime pour toujours un problème que personne n'arrive à régler depuis 50 ans. »
Il y avait de ça, il y avait
le Deus ex machina, quoi, c'est Bonaparte à Austerlitz. Et donc, en réalité, je le dis assez crûment, le système par points, c'est pour baiser les gens. Pourquoi ? Et pourquoi je dis qu'il faut rester en annuité ? C'est parce que c'est pas seulement une réforme technique, c'est une réforme socio-économico-politique. Ça concerne toute la population. Et quand ça concerne toute la population, il faut que les gens comprennent. Et les annuités, on comprend. Si on a un système avec 42 ans de durée de cotise, il faut passer à 44 ans, tout le monde peut comprendre que de 42 à 44 ans, on a ajouté 2 ans. Voilà. Donc, la simplicité est fondamentale sur un régime socio-économico-politique qui concerne l'intégralité de la population. Et sur les points... Alors, ce qui était miraculeux dans la réforme de 2019, c'est qu'on ne vous parlait pas de 65 ans, vous parlez de rien.
C'était à la carte.
Et je me suis battu, pourquoi ? Parce que, économiste, mathématicien, qui travaille beaucoup sur les questions de finances publiques, je savais exactement ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'au cours des 40 prochaines années, la valeur du point allait baisser.
Tous les ans.
Bien sûr. Et quand j'ai reçu...
Ça, on l'a dit ici. Hein. Et tous les ans, le Parlement arbitre la valeur du point.
Et donc, j'ai beaucoup écrit sur ça. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que j'ai reçu des mails et des lettres privées.
D'insultes ?
De très hauts fonctionnaires de Bercy,
oui,
me disant merci de dire ça, parce que nous, on ne peut pas le dire, mais on sait que c'est ce qui va se passer. Donc je dis attention à la réforme par point. Moi, je veux une réforme par annuité, parce que ça permet de regarder le peuple droit dans les yeux en lui disant ce qu'on va faire.
La réforme de l'assurance chômage, le projet de loi va passer, lui, sans problème, il n'y aura pas de 49-3, parce que c'est technique, c'est juste, je décale de 14 mois l'actuelle convention UNEDIC, parce qu'elle devait s'arrêter fin octobre. Voilà, c'est de la cuisine. En fait, derrière, c'est je donne les mains libres à l'État pour faire absolument ce qu'il veut et tout décider dans son coin. Parce que c'est l'aboutissement, ce que nous vivons, d'un processus de reprise en main par l'État intégrale de ce dispositif UNEDIC qui a commencé depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec notamment les premiers transferts de cotisations vers l'impôt. C'est le thème central du baromètre Odoxa Abeille Assurance Challenge BFM Business. Je vous laisse nous donner les principaux éléments pour ou contre la réforme, mais vous avez compris que c'est la question 2 qui a retenu mon attention, Gaël.
Alors déjà, pour ou contre la réforme, il faut expliquer aux gens de quoi il s'agit et quoi de mieux.
On a expliqué, hein.
Bien sûr,
c'est ce que je voulais dire. Change les paramètres en fonction de la météo de l'emploi.
Exactement, et quoi de mieux que de citer le ministre de l'Emploi, Olivier Dussopt, en disant « quand ça va bien, on durcit les règles, et quand ça va mal, on les assouplit ».
Parisien au mois d'août.
Voilà, donc il explicite ça très, très clairement. Et donc quand on interroge les Français là-dessus, alors c'est la grande différence avec les retraites. Je vous disais, sur les retraites, à chaque fois, surtout quand il s'agit de déplacer la borne d'âge, on a une majorité de personnes qui sont contre. Parce
mais
que
la réponse sur l'assurance chômage.
Tout le monde est concerné par la retraite.
Par
sur
le
l'assurance
chômage,
pas tout le monde.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, les gens qui sont près du chômage,
c'est
qui sont au chômage,
total.
Les gens qui sont au chômage, sur tous les résultats que je vais vous aborder, il y a un clivage, hein, parce qu'on est, on est dans des moyennes nationales, mais quand on regarde le détail, les gens qui sont au chômage, les gens qui sont en proximité du chômage, c'est-à-dire qui ont des emplois plus précaires,
n'y touchez pas.
Alors eux, ils disent non, faut pas faire ça. Et les cadres, les CSP+, et alors surtout les gens de plus de 65 ans, qui sont plus concernés par le chômage, eux, ils disent, mais si, bien sûr, il faut réformer. Et donc, en moyenne, tout ça nous donne, c'est pour ça que je faisais cette digression, en moyenne, ils nous donnent 53% de Français qui se disent, eh ben pourquoi pas, nous sommes favorables à cette réforme, et 47% opposés. Mais après, quand on regarde dans les détails, vous avez un clivage majeur. Et pour arriver à la question 2, même chose.
C'est la première fois quand même qu'on leur soumet une réforme sur cette base-là. Géométrie variable des paramètres en fonction de la météo de l'emploi.
Fois.
On n'avait jamais vendu
c'est
ça comme ça.
C'est la première fois. En revanche, ce n'est pas la première fois que je teste des réformes sur le chômage. Et qu'à chaque fois qu'on dit qu'on va durcir les règles concernant les chômeurs, on observe le clivage que je vous indiquais il y a un instant. Pour vous chiffrer ça, on est, pour les plus favorables, les sympathisants Renaissance, normal, c'est le parti du président, 86%. Les sympathisants LR, 78%. Les plus de 65 ans non concernés, 68% sont favorables à cette réforme. Et les cadres, 65%.
D'accord,
oui. En gros, c'est à chaque fois les proportions inverses pour les sympathisants de gauche, les catégories populaires et alors les chômeurs opposés à 83%. Quand on pose la question 2, la fameuse question qui vous intéresse tant, selon vous, pourquoi des centaines de milliers de postes ne trouvent-ils pas preneurs alors qu'il existe plusieurs millions de chômeurs ? Est-ce avant tout parce que les chômeurs ne veulent pas accepter certains emplois qu'ils pourraient très bien prendre car ils ont trop d'avantages à rester au chômage ? 47%.
47%.
Est-ce qu'ils
refusent les jobs parce qu'ils ont trop d'avantages.
Deuxième possibilité, est-ce que c'est parce que les conditions de travail proposées sur ces emplois sont dégradées, salaire insuffisant, travail trop pénible, journée hachée ? 33%. Et 19% nous disent, c'est tout simplement parce que les emplois proposés ne correspondent absolument pas au profil des personnes actuellement au chômage. Ce qui fait que quand on recoupe entre c'est de la faute
des chômeurs, c'est pas de leur faute.
C'est pas de leur faute, ça fait du 47-52, on retrouve presque le clivage que je vous indiquais tout à l'heure sur l'adhésion ou pas à la réforme, avec exactement les mêmes clivages sociologiques que j'avais évoqués il y a un instant.
C'est impressionnant, Benjamin Coria, hein, parce que là, c'est un sondage. Il y a toute la thématique de l'assistanat qui est en filigrane derrière cette réponse. 47% considèrent que si le chômeur est au chômage, c'est de sa faute. Je le résume à grand trait. 52%.
En tout cas, s'il y reste, c'est parce qu'il a trop d'avantages et que du coup, il ne veut pas.
Et 57% considèrent que celui qui est au chômage, c'est malgré lui qu'il n'est pas responsable. 52, il n'est pas responsable de sa situation. Ça m'a impressionné, cette réponse.
Oui, moi, ça m'impressionne moyennement.
Ah bon ?
Moyennement, je vais vous dire pourquoi, pour deux raisons. D'abord, parce que quand même, le pilonnage sur l'assistanat, etc., ça fait 30 ans qu'on entend ça, bon, d'une part. Et d'autre part, et surtout parce que je pense que le sondage est très explicite. Très explicite. C'est ceux qui ne sont pas concernés, c'est-à-dire les plus de 65 ans et les cadres, qui disent, oui, il faut cogner sur les chômeurs. Hein. Bon, alors, c'est un peu déprimant, hein, sur les solidarités intergénérationnelles et sur les solidarités interclassistes, pour employer un grand mot. Mais, comment dire, ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les plus fragiles, eh ben, ils disent non, si on n'est pas dans l'emploi, c'est parce que soit les emplois ne correspondent pas, soit ils n'existent pas, soit on n'a pas les qualifications nécessaires, etc.
C'est une raison importante, celle-là.
Bien sûr. Et vient, au secours et au renfort, plus exactement, de cette vision des choses. C'est quand même très important. Le fait que 38% des ayants droit renoncent absolument à leurs droits.
Non, c'est le contraire. 25%.
Non, il y a que 38%.
Ceux qui renoncent.
Il y a que 38% des chômeurs ayant droit qui touchent leurs droits. Donc, je veux dire, on est quand même dans une situation extrêmement particulière. Ça veut dire que la difficulté déjà d'accès et l'ensemble des conditions qui sont mises pour bénéficier du chômage sont telles que ça décourage plus de la moitié des ayants droit. Donc, à imaginer qu'en durcissant encore les conditions d'accès et les bénéfices, on va faire revenir les gens à l'emploi, c'est juste ne pas comprendre à quelle situation on a affaire.
Chaque fois, je cite les travaux des experts du sujet qui ont été publiés à de nombreuses reprises, qui considèrent que le seul paramètre qui peut éventuellement permettre de réduire la durée au chômage, c'est de modifier la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, c'est 24 mois jusqu'à 53 ans, puis ensuite, c'est 30 mois de 53 à 56, je crois, et 36 mois au-delà de 56 ans.
Moi, je dirais que surtout, la question centrale, c'est l'appariement entre...
Oui,
c'est vraiment ça, la question.
L'appariement.
C'est-à-dire
les jobs correspondent.
Non, mais le fait que les emplois offerts, bon, ça, c'est très difficile de changer. Si, on peut modifier les conditions de travail et l'attractivité, correspondent aux qualifications. C'est ça le point central pour la
Benjamin, France. Je l'ai dit à plusieurs fois, j'ai fait des chroniques sur le sujet en disant que c'était évidemment pas l'alpha et l'oméga du retour au plein emploi, ça pouvait y avoir un élément qui pouvait peut-être participer à, mais que c'est un cocktail d'éléments, l'emploi beaucoup plus complexe. Bon, Christian, pas trop long là-dessus, parce que je veux absolument qu'on parle du plan sobriété, par rapport à ce qu'on a dit et à cette réponse.
Donc je vais faire pas long.
Vous connaissez le principe de l'émission. Il reste 15 minutes, 31 secondes.
Je vais rebondir sur ce...
Vous avez le timing devant vous, d'ailleurs, si vous voulez suivre, il est en rouge.
Oui.
Voilà.
Je vais rebondir sur ce qu'a dit Benjamin. Moi, je suis favorable, bien sûr, au régime danois, c'est-à-dire que pour améliorer l'appariement, on vous reforme.
Oui, c'est ça.
Et donc, au Danemark, on a des formations de 3 à 6 mois, selon la nature des emplois. Vous êtes payé plein pot pendant la formation. Mais ensuite, vous avez 3 offres d'emploi correspondant à la formation que vous avez reçue. Alors là, si vous dites non, en revanche, vous n'avez plus d'indemnité. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail des deux côtés, bien sûr. C'est-à-dire qu'au moment d'entrer dans la formation, le chômeur qui va en bénéficier doit comprendre ce qui va se passer après. Donc ça, je pense que c'est un premier élément. Alors, on a quand même progressé en France sur ce point, mais pas suffisamment, de toute évidence. Le deuxième élément, c'est... malgré tout, il y a encore des emplois pas très agréables à réaliser, et donc il faut faire des progrès de mécanisation ou d'amélioration de l'organisation dans les entreprises. Mais par exemple, dans la restauration, ça reste encore pas très sympa de faire la plonge.
Ils ont fait beaucoup de progrès les offres d'emploi et l'attractivité depuis les problèmes qu'ils ont rencontrés après
Mais
COVID,
néanmoins, il y a encore des plongeurs dans des situations difficiles dans les restaurants. Et puis le troisième point, alors là, qui est plus désagréable, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui ne sont plus en état de travailler.
Oui. En état physique, vous voulez dire ?
Physique et mental.
Oui, oui.
Et donc là, je suis assez favorable à un régime à la hollandaise.
Non, mais là, c'est plus de l'assurance chômage.
Non, mais justement, un régime à la hollandaise où ils ont... Alors, il y a deux façons d'attaquer ce problème, par les entreprises d'insertion, ces fameuses entreprises où on vous réapprend à vous tenir debout, pour faire simple. Et l'autre façon, c'est que si on n'est même pas en mesure de répondre aux critères des entreprises d'insertion, à ce moment-là, on vous donne une rente. Voilà, parce que ça ne sert à rien de... Si vraiment, sur les 3 millions de chômeurs, Il y a même des estimations à 600, 800 000 qui n'ont aucune chance de retrouver un emploi. Ça ne sert à rien d'annoncer tous les mois qu'il y a 3 millions de chômeurs. Ça énerve tout le monde.
Ça ne sert à rien. Il y a Hugo qui m'écrit « Enfin un débat sérieux sur les retraites ». Merci. Merci Hugo.
Juste un point sur le dernier point, oui. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas en condition de revenir à l'emploi pour des tas de raisons. Parce qu'ils sont chômeurs depuis extrêmement longtemps, qu'ils ont
ils ont des cassures dans leur
toute
vie.
Employabilité, comme on dit techniquement, nous les économistes. Bon, moi je pense, de ce point de vue, qu'on ne fait pas assez la promotion de l'expérience territoire zéro chômeur, dans lequel des chômeurs de très longue durée, puisque ça ne concerne qu'eux, fabriquent des entreprises en étant encadrés, bien entendu, par des gens qui savent gérer, etc., et progressivement reviennent à l'emploi. Et le grand succès des territoires zéro chômeur, moi j'en ai visité plusieurs, évidemment, le grand succès, c'est quand les gens quittent l'entreprise territoire zéro chômeur.
Ils retrouvent une vie normale.
Parce qu'ils ont trouvé un emploi.
Ils retrouvent une vie normale.
Et il y a beaucoup de succès dans ce domaine. Donc,
je parlais d'entreprise d'insertion et ça en fait partie.
Bon. Oui, non, mais voilà. Je suis d'accord. Je pense que cette forme-là d'entreprise
d'insertion... On pourrait sauver des centaines de milliers de gens.
Mais oui, il faut vraiment biller là-dessus.
Benjamin Cornel, je n'ai pas en tête le montant de dépenses publiques que représentent ces territoires zéro chômeur.
Non, c'est très peu.
Oui,
c'est très peu parce que...
En fait, c'est une partie de l'indemnité. On convertit l'indemnité.
Plus de 80% de territoire zéro chômeur, c'est la simple conversion de l'indemnité de chômage de longue durée en salaire. Mmh. Et ils ont à trouver à peu près 20 à 25% de ressources propres à travers leur activité. Donc je veux dire, ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte peu cher par rapport aux bénéfices.
Je le disais, Gaël Silman, mais vraiment là, en un mot, parce que je veux qu'on avance, la dernière question, c'est justement les paramètres qu'il faudrait bouger en fonction de la météo de l'emploi. J'ai donné les principales conclusions des études académiques sur le sujet. La durée d'indemnisation est l'élément clé, disent Stéphane Carcillo ou Bruno Coquet de l'OFCE, notamment sur les exemples canadiens. Et la régionalisation est un élément encore supplémentaire de réussite. Sauf que la régionalisation en France, elle a pour l'instant été écartée par Olivier Dussopt. Vous avez posé la question.
On a testé les quatre paramètres possibles, les quatre grands piliers. Trois d'entre eux sont ceux que veut mettre en place le gouvernement. Un autre, il ne le souhaite pas. Ça tombe bien s'il est majoritairement rejeté par les Français. Celui qui est rejeté, c'est l'idée de réduire le montant de l'allocation chômage versée aux chômeurs. Mais ce n'est pas ce qui est envisagé. La radiation, Christian l'évoquait. La règle qui existe, c'est quand même...
Oui, elle existe, cette règle.
On radie tout chômeur qui refuserait deux offres que Pôle emploi jugerait raisonnables, entre guillemets. Sauf qu'elle ne s'applique pas. Ou peu. Et donc, la mise en application de cette règle qui existe déjà, 60% des Français y seraient favorables.
Il y a plein de choses qui ne s'appliquent pas. C'est comme les menaces de sanctions de l'Europe quand on est en déficit. Oui,
56% sont favorables donc, à la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs. Vous l'évoquiez
il y a un instant.
Et 54% à ce qu'on augmente la période de travail nécessaire pour obtenir les droits au chômage. Mais à chaque fois, j'attire votre attention sur le fait que quand on regarde le découpage de la population, ceux qui sont très majoritairement favorables sont ceux qui sont très peu concernés ou pas du tout. Et ceux qui sont directement concernés, donc chômeurs, catégories populaires, personnes faiblement diplômées, sont majoritairement opposés à toutes ces règles.
Si vous voulez avoir un élément de débat, alors on a eu un élément de débat hyper précis et assez inédit sur les retraites au début de cette émission. Je ne sais plus quel jour c'était, mais l'échange entre Éric Heyer et Stéphane Carcillo la semaine dernière, je crois que c'était jeudi dernier, franchement, c'était vraiment passionnant, parce qu'on avait affaire à des gens connaissant extrêmement bien le sujet, notamment de l'assurance chômage. Voilà, si vous voulez réécouter ça, vous aurez plein d'éléments. Le plan sobriété, alors je ne reviens pas sur les détails du plan sobriété. Benjamin Coria, vous l'avez accueilli comment, ce plan sobriété? Moi, j'ai ma lecture des choses, mais peut-être qu'elle est complètement différente de la vôtre, donc je vous laisse partir free rider.
Bon, moi, ma lecture des choses, c'est la suivante. Bon, premièrement, au point où on en est, si je peux dire.
Qu'est-ce que vous voulez dire, au point où on en est?
Non, des difficultés en matière d'énergie.
Pour l'instant, c'est le prix, la difficulté.
En général.
C'est pas encore la quantité.
C'est pas encore la quantité, mais là, on entend claironner que les réserves de gaz sont pleines, etc. C'est pour deux mois.
Oui, 97%, ça couvre pas tout l'hiver.
Ben voilà. Donc, je veux dire, on va rentrer dans une période de difficulté à la fois sur le prix, mais le prix, c'est aussi le rationnement. Parce qu'il y a plein de ménages, de petites entreprises, qui, au prix de l'électricité, vont se trouver éjectés du marché.
C'est pour ça que Bruxelles veut plafonner, c'est pas fait, mais c'est bon.
Non, mais c'est pas du tout.
C'est les Allemands qui bloquent.
C'est les Allemands qui bloquent. C'est eux qui C'est à eux que ça coûte très cher.
Donc mon sentiment, il tient en deux mots.
Allez-y.
Donc au point de difficulté dans lequel nous sommes, donc je répète, des mesures de type sobriété, entre guillemets, sont à peu près inévitables. Mmh. Bon, voilà. Alors maintenant, la question de fond, c'est... on va pas s'en tirer comme ça, hein. On va pas s'en tirer comme ça. Peut-être pour cette saison et encore, on attend de voir. Mais c'est pas avec des petits plus et des petits moins, hein, dans une économie de gabegie, hein, que on va résoudre les questions énergétiques. Donc moi, le regret que j'ai, c'est de laisser croire. Et alors, moi, je cherche pas à avoir l'unanimité autour de cette table, mais l'illusion, c'est de croire qu'on peut garder la trajectoire actuelle avec un peu plus, un peu moins, et qu'on va passer comme ça la crise énergétique.
Vous êtes un peu dur, on ne veut pas garder la trajectoire. On a dit qu'il faut 10% de consommation en moins. Ce n'est pas garder la trajectoire, quand même.
Oui, mais c'est regardez quelles sont les mesures prises. Les mesures prises, c'est les piscines, c'est un degré ici, c'est je ne sais pas quoi. Bon, donc, les vraies questions, c'est quoi? Les vraies questions, c'est la mobilité. Est-ce qu'on s'en prend une bonne fois pour toutes, il faut être très clair, à la mobilité individuelle, en favorisant systématiquement et par des mesures qui sont simples à prendre. Je lisais il n'y a pas longtemps que une des propositions, c'est un ticket mobilité de 9 euros sur les transports en commun pour tout ce qui est des déplacements journaliers.
C'est les Allemands qui ont fait ça sur l'ensemble de leurs transports ferroviaires.
Voilà. Bon, donc ça, c'est des mesures de fond. Hein. Ce n'est pas un degré D'accord. de plus, un degré de moins. En plus, invérifiable, d'une certaine manière. Oui. Donc, voilà. Mon sentiment, c'est, au point où on en est, c'est inévitable de faire ça. Ou à peu près, quoi. Enfin, prendre des mesures d'urgence. Mais on ne peut pas faire l'économie de réformes de fond structurelles, c'est-à-dire la mobilité, c'est-à-dire... les passoires climatiques, c'est-à-dire le diminuer autant que possible le transport individuel, c'est-à-dire les SUV, c'est-à-dire les jets privés. Il va falloir quand même aborder ces questions un jour.
Il est question de retirer aux jets privés la taxation réduite dont bénéficie l'aviation sur le kérosène, qui est un héritage, je crois, des années 40. Ouais. Je ne sais même plus de
quelle mesure, c'est vraiment avec ça qu'on va s'en tirer.
Parmi les mesures, il y a quand même les voitures de l'administration ne pourront plus rouler à 130, mais à 110 sur l'autoroute. Je ne sais pas comment le gendarme décèle que la voiture qui est à 110 ou 130, elle est de l'administration.
C'est pas comme ça qu'on va s'en tirer. La crise, elle est beaucoup plus profonde que ça.
Mais attendez, on n'a jamais menti aux gens en leur disant « Ah, on a 97% de réserve de gaz, c'est bon, ça passe. » Tout le monde sait bien que ça passe pas. Et en plus, les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 étant définitivement HS, c'est fini les gaz russes. Christian, le plan énergie sobriété, là,
Mais effectivement, il faut
ce qui vous inspire.
Largement changer le modèle. Et...
Il paraît que ça fait un an qu'il est prêt, à nous dire. Oui, et que Jean Castex n'a pas osé le dégainer parce qu'il faisait mal.
Oui, mais
et à un moment, il faudra admettre de dire aux gens qu'il y aura.
Ça va. Je pense qu'il y a une erreur là, de com, c'est-à-dire que ce qui fait mal, c'est pas seulement les difficultés qu'on peut avoir en termes de chauffage ou de déplacement cet hiver, c'est de pas avoir de visibilité sur 20 ans.
Bien sûr.
Il est important d'avoir une communication sur ce qu'on fait sur 20 ans. Et donc, là, sur ce point, on souffre quand même, il faut le rappeler, de décisions prises dans les 15 dernières années, où on a laissé tomber le nucléaire, et où surtout, on n'a pas laissé se développer, on n'a pas poussé suffisamment le photovoltaïque. Le photovoltaïque, qui a beaucoup moins d'inconvénients que l'éolien terrestre, c'est quelque chose qu'il faut pousser, d'autant plus que au CEA, ils ont beaucoup travaillé...
Commissariat à l'énergie atomique.
Sur du photovoltaïque avec un taux d'efficacité qui est beaucoup plus élevé que le photovoltaïque actuel. Il faudrait mettre des centaines de millions d'euros sur la recherche et la production de nouveaux panneaux sur ce sujet-là. Il faut multiplier par 10, on peut le faire techniquement à l'horizon de 10 ans, la production de photovoltaïque. Il y a un deuxième élément, et je termine par là, c'est l'hydroélectricité. Il se trouve qu'on pourrait produire, en investissant sur 3 ans, 25% de plus d'hydroélectricité. Pourquoi on ne le fait pas ? c'est hallucinant, on a envie de hurler. C'est parce qu'on a tellement merdé depuis 20 ans au niveau français par rapport aux directives européennes sur l'eau, sur différents sujets. Et notamment, on s'est laissé avoir sur une directive qui exigeait d'ouvrir les barrages. Donc, la France se retrouve dans une situation dans laquelle n'est pas l'Allemagne, de devoir privatiser, entre guillemets, les barrages d'EDF. Et EDF, ayant cette mesure sur la tête depuis plus de 10 ans, n'investit plus dans les barrages. Donc on se retrouve dans une situation où personne ne prend de décision parce que ça va bouger, on a peur que si on bouge la directive sur l'eau, bon. Donc à un moment donné, il faut remettre du moyen long terme et prendre des décisions lourdes et aller voir les autorités européennes et s'adresser au peuple et prendre des décisions lourdes sur ces sujets-là. On peut relancer l'hydroélectricité, il faut relancer massivement le photovoltaïque et les gens se diront, bon, ben, si j'ai un peu froid cet hiver, c'est pas forcément les 20 prochaines années. Mais si on se dit je vais avoir froid cet hiver, mais en plus ça sera pire les 20 prochaines années, on reçoit pas les choses de la même façon.
C'est super dur de faire bouger Bruxelles. Il faut écouter Bruno Le Maire quand il raconte les heures au téléphone avec Magret et Vestager.
Mais il y a un moment...
Ursula von der Leyen, quoi.
Il y a un moment, il faut se poser la question anglaise. La question anglaise, c'est-à-dire que si on a un ensemble de contraintes insupportables au niveau européen, il faut dire aux technocrates européens qu'on ne continue plus de jouer le jeu.
Si on n'a plus la monnaie, les boucliers, c'est fini.
Décidément, aujourd'hui, Christian, est plein de bonnes idées.
Non, mais c'est... j'en parlais avec Benjamin...
On ne va pas se coucher indéfiniment.
J'en parlais avec Benjamin à volonté. Je pense que ce que nous vivons est d'une... telle violence, d'abord c'est pas compliqué pour mettre une économie à plat, vous avez deux éléments, c'est la guerre et la pandémie, avant tout le reste. Je pense qu'il va se passer des trucs, alors je sais pas jusqu'où ça nous mène, mais il va se passer des trucs, la transition énergétique va considérablement s'accélérer, on va revenir sur des marchés nationaux de fixation
des prix
d'énergie.
Nicolas, je peux juste vous dire une chose.
Ah oui, mais on laisse quand même un peu de temps à gagner.
Non, mais c'est très court.
Bon,
il y a une 35. Il doit y avoir, je me trompe peut-être, 30 000 personnes à la Commission européenne, dont 10 000 hauts fonctionnaires qui sont payés 10 fois le SMIC et sans impôts. Il se trouve que ces gens-là, ils ont aussi envie de garder leur fromage. Donc il y a un moment, on leur dit, peut-être que le fromage va s'arrêter si vous voulez pas bouger.
Il y a un auditeur qui me dit, comment voulez-vous vous passer de la voiture individuelle quand à la campagne on vous met les dépôts d'ordures à 4 km de votre domicile?
Je voulais les mettre ailleurs.
Une minute 10, c'est le mot de la fin.
Non, mais je voulais simplement vous donner 2-3 chiffres ou tendances d'opinion sur tout ce que vous avez abordé, sur ce que vient de dire ce que vous venez de dire l'un et l'autre sur la situation économique. On a notre baromètre économique qui nous montre un indice de morale au fond du trou. En cet automne, justement parce que les Français, dans les enquêtes qu'on réalise, nous anticipent un hiver qui va être extrêmement difficile à un moment où ils souffrent déjà de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie. Ensuite, sur les efforts, vous évoquiez, et dans le plan sobriété, il y a l'idée d'efforts individuels qui sont demandés aux Français, dans leur logement, sur le fait d'abaisser la température chez soi, etc. On a balayé tous les efforts demandés, et à chaque fois, on a une majorité de Français, non seulement qui se dit, en gros, des trois quarts, prête à le faire, à fournir cet effort, mais qui a déjà commencé parce qu'avec la hausse des prix, ils ont déjà baissé les températures dans leur logement ou limité leurs déplacements s'agissant de la mobilité. Enfin, sur la question de la mobilité, un chiffre quand même, même pas un chiffre, une tendance. Ce qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes, c'est la menace de hausse des prix des taxes sur les carburants. Les Français sont extrêmement attachés à pouvoir utiliser leurs moyens de transport thermique individuels quand ils ne peuvent pas faire autrement. Si on les oblige, ça peut mettre le feu aux poudres.
Alors, t'as vraiment envie de couper le poste en ce moment. Tu vas plus avoir de carburant, tu vas plus avoir d'eau chaude, tu vas payer une fortune ta bouffe. Okay. C'est gay. Benjamin Coria, Christian Saint-Etienne et Gaël Sliman pour le baromètre Odoxa à Bailly Assurance. Demain, rendez-vous 9h.